5 et 6 juillet à Saint-Enimy,
le festival Bulle de Burle revient.
Organisé par l'association Enimy BD,
plus de 30 auteurs et autrices seront présents pour des séances de dédicaces.
À cette occasion, Radio Bartas prend le direct tout au long du week-end.
Pour des plateaux et des rencontres autour du micro.
La 18e édition du festival Bulle de Burle,
c'est bien sur le 107FM.
Et sur radiobartas.net.
Et oui, on est bien en direct, on est bien là, juste à la source de Burle. Alors c'est vrai qu'on est sous la tente et il fait un peu chaud, mais on passe un excellent moment, plein de sourires, plein de vie, et on tenait vraiment à faire ce plateau cet après-midi sur la place de la femme dans la bande dessinée, en fait, puisque ça a souvent été considéré comme un milieu très masculin. Alors les personnes qui m'entourent me le diront, me contrediront ou pas d'ailleurs. On va voir en tout cas si tout ça évolue, si je me trompe d'ailleurs, puisque ça peut aussi arriver. Nous accompagnerons pendant ces quelques dizaines de minutes Drac. Bonjour.
Bonjour.
Tu es coloriste et tu es notamment au pinceau sur les souris du Louvre, la brigade des cauchemars ou encore les filles au chocolat, c'est tout à fait ça. Amandine, bonjour.
Bonjour.
Amandine, je crois qu'on s'était eu en interview l'année dernière, je crois que tu avais gagné un prix, c'est ça hein?
Oui, c'est bien ça, j'avais gagné le prix jeunesse l'année dernière.
Le prix jeunesse, toujours un plaisir, Miss Tinguette évidemment, et Anissa. Sandrine Goalec, bonjour.
Bonjour.
Alors Sandrine, Lila, et je suis désolé puisque comme il y a eu un petit chamboulement puisque Hélène est arrivée, bonjour Hélène.
Bonjour.
Des éditions Kuma, on va en parler avec toi dans un instant. Donc j'ai pas noté, alors évidemment j'ai noté Lila et je lui fais un petit clin d'œil comme ça, mais dis-nous les œuvres à laquelle
tu as participé. J'ai fait une série qui s'appelle Les Souris du Louvre, et auparavant j'avais fait une série qui s'appelait L'Atelier Détective. Et ensuite, j'ai fait un album de Lila, la série Lila, et quelques petits albums de la série qui n'aimait pas. Voilà pour les petits.
Il y en a eu tellement, en fait, c'est pour ça.
Non, je
vous ai demandé.
Pas tant.
et donc, Hélène, des éditions Kuma. Alors, je vais commencer par vous et parler du monde de l'édition. Et justement, quel est le pourcentage, entre guillemets, homme-femme? Est-ce que vous savez à peu près? D'ailleurs, parlons juste des femmes, alors que tu édites, que vous éditez, parce que tu n'es pas toute seule, évidemment, dans ces éditions.
On est éditrice. Toute nouvelle structure éditoriale, ça fait à peine un an et demi qu'on s'est lancé. Donc moi en micro-entreprise, je suis bibliothécaire de formation, un milieu assez féminin, on va dire également. Et par passion, je me suis lancée dans l'édition. Donc on fait du financement participatif, de la prévente, et on a édité que des hommes pour le moment. Désolée.
Non, mais c'est une bonne intro. Hein, ça.
non, mais on n'a rien contre les hommes. Hein. Donc on est deux femmes, ma compagne et moi-même, sur ce projet qui est né d'une passion. Et là, on a sorti 3 titres pour le moment. On fait BD, manga. Mais le prochain est l'œuvre d'une jeune autrice de BD qui est étudiante en lettres et qui nous fait qui réalise une très belle interprétation de Lorenzaccio d'Alfred de Musset, la pièce de théâtre. Donc un gros morceau de littérature française qu'elle adapte en BD à langue de Chine. Donc un truc un petit peu hallucinant, quoi.
Alors Drac, coloriste, hein, ça se pose pas, c'est assez neutre. Hein. Voilà, on dit un coloriste, une coloriste.
Oui.
Donc, et par contre, je m'adresse, est-ce qu'on dit autrice ou auteur?
Moi, ça m'est égal.
On s'en fout.
Je veux dire dessinatrice.
Ça a évolué. Au départ, on était auteur. Maintenant, on est autrice. Mais en réalité, c'est le même métier.
Ça dépend. Moi, par exemple, justement, avec Julie Namon, là, qu'on est en train d'éditer, je lui ai posé la question dans les communications qu'on fait. J'ai dit, qu'est-ce que je mets? Je me dis, tu préfères auteur ou tu préfères autrice? Elle m'a dit autrice. J'ai dit, bon, ok. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal entre les deux à choisir moi-même.
Pareil.
Moi, je trouve ça assez moche, en fait, autrice.
Ouais.
Donc auteur,
ça nous unit tous aussi. Donc
voilà.
Allez, banco, on partira là-dessus.
Je partage assez votre avis.
Est-ce que Sandrine, ça a été facile de te faire une place toi, dans ce monde de la BD? Ça s'est fait tout seul?
Oui, moi je sais pas, j'ai l'impression d'être assez chanceuse. En fait, moi j'ai fait longtemps du dessin animé et je côtoyais depuis très longtemps aussi des auteurs de BD. Donc voilà, et puis ça s'est passé très simplement. Enfin, c'est un ami qui faisait de la bande dessinée avec qui je travaillais aussi dans l'animation, qui j'avais arrêté l'animation, j'en avais un ras-le-bol, j'avais fait une formation de cuisine qui avait rien à voir, fallait que je fasse, j'en avais marre de dessiner, donc fallait que je fasse autre chose. Et puis quand je suis allée le voir, puis je lui ai dit oh, ça me semble pas quand même, voilà. Puis il me dit bah, je vais te présenter des auteurs, enfin des scénaristes, hein, parce que lui il était sur un projet, il avait pas le temps. Et je lui ai dit bah, non quand même, et puis ça s'est fait tout de suite. Voilà, il m'a mis en contact avec eux, et puis j'ai fait un essai, puis c'est ça. Ça a été concluant.
Ça a matché.
Ouais, très bien.
Amandine, comment ça s'est passé pour toi? Et enfin, ça le fait, parce qu'aujourd'hui, ça roule quand même.
Alors, ça s'est construit petit à petit, on va dire. J'ai commencé par faire des études liées à la bande dessinée en allant en fac d'art plastique, avec vraiment l'idée de faire de la bande dessinée. Assez vite, je suis rentrée dans une asso qui auto-éditait des fanzines de BD, dans laquelle j'ai rencontré Drac, à côté de moi. Et ensemble, on a participé à de nombreux événements BD avant même d'avoir sorti nos albums pro. Et on a pris l'habitude de se déplacer ensemble et de dédicacer. Et puis petit à petit, j'ai commencé à signer chez un petit éditeur, à accepter des commandes aussi en illustration. Et puis ça a continué jusqu'à lancer ma série Mistinguette chez un éditeur qui n'avait pas forcément l'habitude de faire des créations, qui faisait plutôt de l'adaptation BD. Donc Mistinguette a été une de leurs premières créations. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont bien soutenue. Et puis Mistinguette a marché. Et voilà, c'est comme ça que ça... C'était petit à petit, mais de façon assez linéaire en fait.
Drac, le métier de coloriste est peut-être un peu moins connu, mais ô combien important dans la bande dessinée. Alors, et évidemment, comme dirait Philippe, les aficionados savent ce que c'est être coloriste, mais est-ce que tu peux, toi, nous expliquer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est ?
Oui, enfin, c'est vraiment tout simple. En fait, en gros, je suis payée pour faire du coloriage. je ne savais pas du tout que ça existait, coloriste de bande dessinée comme métier, avant de découvrir ça grâce à Necomics, donc l'association dont Amandine a parlé, à laquelle j'appartiens depuis vraiment longtemps. J'avais fait quand même des études dans le domaine de l'art et de la communication visuelle, mais au début, mon métier, c'était de faire des sites internet. Et donc, j'ai intégré cette association. Et grâce à cette association, en fait, il y a un des membres qui m'a proposé de mettre en couleur une bande dessinée sur laquelle il travaillait, mais d'être payé pour ça. C'est-à-dire que, ah oui, parce que dans notre association, on fait tout bénévolement, on est des fous, et voilà. Et là, tout d'un coup, il me proposait d'être payé pour faire un truc trop mortel. Ça m'a tellement plu, j'ai jamais arrêté. Donc, comment ça fonctionne? En gros, les dessinateurs m'envoient une planche de BD qui est en noir et blanc, et moi, je dois la mettre en couleur. Après, il y a quand même plein de questions à se poser pour mettre en valeur les choses qui sont importantes, pour... accentuer les émotions, etc. Mais c'est pas si compliqué.
Il t'aiguille, t'as des indications quand même.
Ouais, je me renseigne sur l'histoire, sur ce qui est important, sur les moments de la journée, sur les lieux, plein de choses comme ça. Et après, je me jette à l'eau. Et comme j'utilise l'outil informatique qui me permet de faire des retouches facilement, j'envoie une première version au dessinateur. Et en fait, ils me font des retours et je peux ajuster jusqu'à attendre le rendu qui leur plaît.
C'est pas grave, on est en direct, c'est une alarme.
Tout
va très bien, vas-y, non, mais tu continues de parler, tu l'interromps comme tu veux. On est bien, vous êtes bien sur cette FM, ça vit, tout va bien. Et donc, en tout cas, j'ai l'impression, moi qui aime la BD, qui a quand même pas mal de coloristes femmes, c'est quand même un métier qui est assez féminin, je trouve.
C'est une bonne question. Alors, il y a assez peu de... Parce que moi, je vais très, très souvent en festival. Et il y a assez peu de coloristes qui se déplacent en festival. Mais ceux que je croise, c'est quand même souvent des filles. Enfin, je dirais que c'est vraiment moitié-moitié. Je me rends pas du tout compte de la proportion. Je suis sur un groupe Facebook de coloristes où on est pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y ait une majorité de l'un ou de l'autre. J'ai l'impression que c'est plutôt bien réparti.
Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour être un bon ou une bonne coloriste?
C'est une très bonne question. je pense un petit peu, parce que quand il faut dessiner des ombres, il faut avoir un petit coup de crayon quand même. Après, je m'avance peut-être, mais je pense que oui, tous les coloristes, ça dessine au moins un peu. Ouais.
Alors évidemment, poser la question de la place de l'ordinateur aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Toi, est-ce que tu l'utilises sans critiquer, attention, hein, parce que ça peut être utile et ça avance comme ça. Enfin, on va pas aller contre la technologie, mais est-ce que toi, tu l'utilises?
L'ordinateur, c'est pas l'IA. Hein. Le truc, c'est là, j'appuie pas sur un bouton et hop, la page, elle est mise en couleur toute seule. Il y a quand même du boulot. Hein. C'est différent. L'ordinateur permet de pouvoir faire des retouches plus facilement, de zoomer, etc. Mais ça reste un outil. Enfin, ça prend presque plus de temps qu'en tradi. C'est juste une autre technique. Voilà. Dans ce que je surveille du coin de l'œil, là, c'est l'IA. C'est ça me fait vraiment peur. Mais pour l'instant, je fais une phobie. Je rejette la chose comme si ça n'existait pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de honte à utiliser l'ordinateur. D'ailleurs, je pense que quasi tous les coloristes utilisent l'ordinateur. C'est quand même très, très pratique. Mmh.
Est-ce que vous, dans vos BD, vous utilisez des coloristes aussi
Oui. Alors, je suis ma propre coloriste pour le coup. Sinon, évidemment, ce serait Drac, sans hésitation. Voilà. Mais c'est une partie que j'aime énormément, en fait, la mise en couleur. C'est le moment où on rajoute toutes les. Ben, voilà, on peut insister sur les émotions, on peut jouer sur les ambiances. Et c'est vraiment c'est un plaisir, une partie très importante.
Sandrine ?
Eh ben moi, je travaille avec Drac, donc j'ai travaillé avec Drac sur les Soins du Louvre, ouais. Entre autres. C'est sur une autre série qui s'appelle. Enfin, il y a eu juste un album, donc c'est pas une série. Voilà. Moi, je suis pas coloriste, je barbouille, enfin, je peux mettre des couleurs, mais je n'y réfléchis pas, quoi.
Est-ce que vous, dans le monde de l'édition, c'est quelque chose qui est important, entre guillemets, cette séparation entre le scénariste, la dessinatrice, le dessinateur, le coloriste,
c'est
la coloriste?
Pas nécessairement. Après, c'est en fonction des projets, des auteurs. Il y en a qui font tout de A à Z et qui s'éclatent comme ça, et qui ont la maîtrise de l'ensemble du projet, du scénario à la couleur, et d'autres qui ne font que le dessin et qui ont un scénariste. Donc on a un de nos projets, le premier qu'on a édité, c'est ça, c'est une œuvre à trois têtes. Et justement, Millennium Coloriste, qui est sur Kuma Édition également, figure sur la couverture. Parce qu'il y a également cette question aussi, je trouve, quand on parlait de la représentativité des coloristes, les coloristes sont souvent ceux dont on parle le moins, je pense. Et qui, je pense que c'est assez féminin aussi, effectivement, qu'il y avait les coloristes. On a pas mal qui sont des femmes, effectivement, en proportion.
Au début, ouais.
Au niveau chiffre, j'aurais aucune idée, mais c'est une impression comme ça, moi-même, en tant que consommatrice de BD. Il me semble que souvent, on voit à couleur, des fois, c'est même la femme de l'auteur.
C'est ça.
J'ai l'impression que c'est un peu des petites mains qui, on va dire, dans la culture de la BD, n'étaient pas, c'est pas les stars et les têtes d'affiche. Et que ça, c'est quelque chose qui change aussi, je trouve, parce que justement, on voit des coloristes qui sont là en tant que coloristes. Et du coup, elle dédicace en tant que coloriste, ce qui est assez rigolo aussi.
Oui.
Mais je m'égare un petit peu là dans mon propos. Mais que des fois, voilà, le coloriste, il est des fois mentionné très. À peine ou pas. Et que ça, c'est aussi des choses qui changent. Donc, c'est assez intéressant. Donc.
Tu veux réagir, Drac?
Ça change doucement, mais
oui.
Ça dépend.
Peut-être sûrement quand même, ce serait bien.
Ouais, c'est très variable en fait. Il y a des maisons d'édition qui ont un peu des protocoles. On met systématiquement le coloriste sur la couverture, et d'autres, c'est systématiquement le coloriste, il est à peine visible, il est à peine nommé. Je sais pas, ça dépend de plein de choses. Moi, maintenant, j'ai lâché prise à 100% là-dessus. Je prends ce qu'on me donne et je vais pas revendiquer. Ça me va.
On est d'accord que si trois personnes travaillent sur un projet, ça change évidemment le prix d'une bande dessinée pour l'éditeur, pour le consommateur, le lecteur.
Bah, c'est pas forcément sur cette variable là qu'on joue. Après, ça change leurs droits d'auteur qui sont divisés en. Mmh. Voilà, s'ils sont 10 sur un projet. On ne peut pas rémunérer, on me donnait un pourcentage, 10% à chacun, s'ils sont 10, c'est-à-dire que ça fait 100% du prix, ce qui n'est pas possible. En tant qu'éditeur ou même libraire, c'est pas possible. Donc effectivement, s'il y a plusieurs personnes, bah c'est les droits d'auteur sont répartis entre ces trois personnes. Équitablement, ça c'est des négociations aussi. Hein. Ils sont libres de négocier.
Parlons des figures féminines qui vous ont peut-être donné envie de faire de la bande dessinée. Est-ce que, alors moi personnellement, en fait, je suis lecteur de bande dessinée parce que je suis incapable de dessiner, je suis incapable de colorier sans dépasser, en fait, et voilà. Par contre, voilà, est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont inspiré, qui s'y jettent, Drac?
C'est une bonne question. Claire Wendling, peut-être, dans son dessin, qui m'avait subjuguée. Mais je ne sais pas si elle m'a inspirée. C'est juste, je sais que j'ai vécu que c'était hyper fort en lisant son œuvre. En fait, je suis désolée pour le thème de l'émission, mais je fais pas trop attention. Est-ce que c'est un gars, est-ce que c'est une fille,
ça,
est-ce qu'il y a
génial.
Plus de gars, est-ce qu'il y a plus de filles. C'est un truc qui me dépasse un peu parce que ça fait vraiment très longtemps que je baigne dans ce milieu-là et je pense que je me suis habituée au fait qu'il y avait plein de gars au début. Après, il y a de plus en plus de filles, mais finalement, je pense que c'est pas quelque chose qui. J'ai cette chance. Finalement, je me sens pas mise. Je sens pas que le fait d'être une femme soit un frein ou autre chose dans ma carrière. J'ai lu quelque part que même dans le monde de la bande dessinée, à travail égal, une femme est moins rémunérée qu'un homme. Alors là, j'étais scotchée. Je me disais, mais c'est inadmissible. pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je fais pas trop attention à ça. Ouais. Alors après, des figures féminines qui m'ont inspirée. Je vais réfléchir et peut-être plus tard.
Amandine ou
Amandine, ça... Amandine, ouais, Amandine m'a inspirée carrément à 2000%.
Pas moi.
Alors... Et Sandrine aussi, ouais. Si, à fond.
Bon, là, ça se trouve, peut-être Sandrine. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ou quelqu'un, enfin surtout là pour le coup. Alors, on va arrêter le genreisme hein, puisque j'ai l'impression que vous êtes dans un monde
dessin,
absolument
donc
génial. Donc parlons vraiment des personnes qui vous ont inspiré puisque voilà.
C'est un ensemble de personnes en fait, c'est des BD. Je sais pas, moi petite je lisais tous les grands classiques comme tout le monde, hein, Boulet Bill. Gaston Lagaffe, et voilà, puis après...
Lagaffe, où, ouais, finalement, il y a Mademoiselle Jeanne
en héroïne.
Et même Spirou, il y a Sécotine, en fait, c'est toujours des personnages secondaires, quand même, de cette époque-là.
Ouais, mais enfin bon, ça m'a jamais dérangé non plus. Enfin, ouais. Non, je... J'aimais pas le dessin, puis ça s'arrête là, quoi.
Amandine, quelqu'un qui t'a inspiré?
Alors pareil, je pense qu'en BD, on regarde beaucoup le héros avant de regarder l'auteur. C'est quand même un métier où les auteurs sont plus anonymes que dans d'autres milieux. Donc moi, quand j'étais plus petite, ce qui m'intéressait, c'était le héros. Donc c'était Gaston, c'était pas Franck. Hein. Voilà, j'avais un regard d'enfant là-dessus. Et donc, il y avait des personnages sans doute dessinés par des filles, mais c'était pas ce qui m'intéressait. Donc je sais que j'ai lu les des blogs de Florence Sestac, mais juste parce que ça passait dans le journal de Mickey, que j'étais abonnée au journal de Mickey, et je m'interrogeais pas sur le fait que c'était lesquels étaient dessinés par des auteurs hommes ou dessinés par des auteurs femmes. C'était vraiment les héros qui comptaient pour moi, avec peut-être une petite plus-value quand il y avait des héroïnes, parce que c'était chouette aussi que ce soit varié. Mais après, comme tout le monde, j'étais fan de Gaston, j'étais fan de Picsou, je me posais pas trop de questions.
Et moi, ce que j'adore dans ce genre de BD aussi, c'est tous les détails que mettent... Alors, effectivement, c'est anonyme hein, pour l'auteur, mais Franquin, ses signatures en bas des cases, je sais pas si vous voyez, j'étais fan de ça, parce que en fait, quand j'étais gamin, j'y prêtais aucune attention, et puis quand j'arrive à l'adolescence, 15, 16, 17 ans, et je me dis, mais en fait, j'avais pas tout vu dans une BD. Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que vous avez des exemples? Et est-ce que vous-même, vous le pratiquez, ce genre de truc? Ou est-ce que ça vous dirait de le pratiquer
Les petits dessins qu'il y avait en bas,
ou de faire ta petite patte quelque part, ou est-ce que tu mets des petits détails comme ça qui vont surprendre?
Je pense que je mets pas mal de détails, mais... Je
sais pas, c'est ma façon de dessiner. Est-ce que tu as des retours justement des gens qui te disent quand tu es en festival?
Oui, on peut me dire que c'est assez... détaillé, la coloriste.
Oui, c'est assez détaillé.
Oui, parce que toi, ton but sur ces petits détails, c'est justement d'aller les mettre en avant, en fait. Sans que pour autant ça se voit.
Ça. Il faut qu'ils soient jolis, mais qu'ils prennent pas trop de place dans la lecture, parce que la couleur est là pour fluidifier la lecture. On dit que la couleur elle est narrative parce qu'elle est au service de l'histoire et donc je peux pas m'amuser à mettre tous les détails en valeur, sinon le lecteur il saurait plus où donner de la tête, mais en même temps je vais pas les mettre dans l'ombre comme ça d'une couleur, j'en prends soin, mais tout en faisant en sorte qu'ils attirent moins l'œil que les vrais propos, les vrais éléments de l'histoire.
Oui, parce qu'on peut, on les met pour s'amuser, parce que ça. Et après, est-ce que c'est utile à l'histoire?
Amandine, toi, t'en as entendu comme ça des petits détails.
je sais qu'en tout cas, ce que j'aime bien ajouter des fois, alors il peut y avoir des petits gags, des petites choses en arrière-case qui donnent de la vie à une bande dessinée, des choses qu'on ne voit pas voir tout de suite, qui ne sont pas nécessaires à l'histoire, mais qui rajoutent de la vie. Notamment sur Mistinguette, nous, c'est une BD qui est avec beaucoup de vie de famille, de vie à l'école, et donc bah, c'est assez chouette de, pour rendre ça vivant, de rajouter des petites scénettes derrière. Et puis j'aime bien aussi, des fois, discrètement glisser des gens de mon entourage que eux se reconnaîtront et les lecteurs ne les verront pas. Et voilà, c'est des petits clins d'œil en plus.
Est-ce que vous allez bosser dans des collèges, faire des ateliers, etc. Toi, en tant que coloriste, Drac.
Oui.
Alors, expliquer ton travail, mais aussi bosser avec eux sur ce que tu fais.
Oui, tout à fait. En général, c'est en deux parties. Quoi. Une première partie où je présente, je me présente moi, un peu mon cursus scolaire et le début de ma vie professionnelle. Et ensuite, comment je suis arrivée dans le monde de la bande dessinée. Ensuite, en quoi ça consiste le métier de coloriste. Et après, en fait, je leur distribue une page de BD en noir et blanc imprimée. Et puis je leur demande de prendre leur crayon de couleur et puis ensemble on voit un peu quels sont les rôles majeurs de la couleur et hop, c'est à eux de faire une mise en couleur. Donc j'adore faire ça, on en fait souvent, que ce soit en milieu scolaire ou en médiathèque, c'est hyper chouette.
Amandine ?
Assez souvent, en amont des festivals de bande dessinée, il y a comme ça des interventions qui sont prévues dans les classes. Donc moi, le plus souvent, c'est dans ce cadre-là que j'interviens en amont des festivals BD et le plus souvent avec des primaires.
Comme Amandine. Pareil.
Le monde de l'édition est un monde assez mystérieux, je suppose, pour les scolaires, pour les jeunes, en fait. Bon, on voit souvent après les BD parus aux éditions un tel, mais bon, ça reste assez mystérieux. Est-ce que tu as envie de faire évoluer un peu tout ça, Hélène ?
Bah, en parlant d'intervention, justement, au tout début de notre activité, donc c'était l'année dernière, hein, donc c'est vraiment récent, nous a demandé de faire une intervention, justement, dans un lycée, dans le cadre d'un festival. Et au début, moi, j'avais un peu peur. J'ai dit, attends, on débute. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Leur expliquer ce que c'est qu'un éditeur? Je le découvre moi-même en le faisant parfois. Donc, et en fait, ça s'est super bien passé parce qu'on avait des jeunes hyper intéressés et curieux. Et finalement, on se rend compte qu'on a toujours quelque chose à dire et à transmettre. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là aussi en tant que bibliothécaire. J'ai aussi cette habitude-là aussi d'avoir mis des animations en place, d'accueillir des auteurs et tout ça. Donc, de se retrouver de ce côté-là, c'est assez rigolo. Et si on peut expliquer, bah oui, parce que éditeur pour même pas forcément que pour des jeunes, parfois ils ne savent pas en quoi ça consiste, quoi, en fait, à quel moment on intervient, est-ce qu'on est le libraire, c'est l'éditeur, enfin tout ça, des fois c'est un petit peu flou parce que effectivement pour créer un livre, bah il y a l'auteur, sans qui rien n'existe, enfin l'auteur est scénariste, coloriste. Les créatifs. Et puis après, bah, y a tout un cheminement et on ne se rend pas forcément toujours compte de qui fait quoi et à quel moment. Donc.
Et surtout que la maison d'édition n'est pas forcément la maison qui va diffuser le livre.
Oui,
en fait.
Alors nous, pour le moment, à notre tout petit niveau, on fait tout nous-mêmes parce qu'on ne peut pas se permettre de distribuer pour des raisons économiques. Pour le moment, c'est assez compliqué quand même. Mais et on a peu de titres, peu de volumes. Donc là, on fait des festivals, on fait des belles rencontres. C'est super sympa. Mais donc c'est petit à petit, ça prend beaucoup de temps de se rendre visible.
C'est pas la folie un peu de se lancer dans tout le monde de l'édition à un moment où le livre est en crise. Alors, ce matin, on discutait qu'il y avait 5000 parutions de BD, 2500 mangas, 2500 BD nouveautés. Ça va ?
Oui, ça va. J'ai pris mes petits cachets ce matin.
mais
je prends mon somnifère le soir et on arrive à gérer comme ça.
Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce monde ?
J'en parlais tout à l'heure justement et j'expliquais si j'avais réalisé en fait tout ce en quoi ça consiste, tout le côté aussi la compta, l'URSSAF, toutes ces petites choses, je l'aurais peut-être pas fait parce que moi je suis quelqu'un qui aime aussi rêver, c'était ça aussi que j'avais envie de faire, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi, j'ai envie de faire une activité nouvelle. Et voilà, on s'est lancé un petit peu comme ça sur un projet dont ma compagne était la coloriste. Donc c'était un peu le petit galop d'essai. Et puis finalement, bah, on fait les choses comme ça en rencontrant des auteurs, des jeunes auteurs. Et oui, on se rend compte que le contexte n'est vraiment pas favorisant. C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas grave, on verra où on va. Hein. C'est clair que... peux pas vivre comme ça très longtemps.
Sandrine, mais... est-ce que vas-y.
Non, mais après plaisir. Voilà, c'est d'abord une passion et voilà, et j'apprends tous les jours de nouvelles choses, donc ça c'est génial. Ça nourrit pas forcément.
Sandrine, ça a été facile de te faire éditer au début de ta carrière, ou alors est-ce que tu as ramé un peu avant d'y arriver?
Non, j'ai pas ramé du tout, puisque ça s'est fait très rapidement. Donc le projet dont je parlais l'autre fois.
Ouais, tout à l'heure, il y a 20 minutes, quoi. Tout va bien, il fait chaud, on est bien.
Il y avait les scénaristes étaient déjà chez un éditeur. Donc ils avaient déjà le projet et l'éditeur était déjà d'accord, donc ils cherchaient un dessinateur et c'est moi qu'ils ont trouvé, quoi. Enfin qu'ils ont trouvé, c'est moi qui, enfin ça marchait.
Ils ont choisi,
et puis oui, ça a été très 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 rapide. Et après ça s'est enchaîné, voilà, c'était chouette.
Et Drac, justement, est-ce que tu peux bosser pour une maison d'édition, c'est-à-dire qui te met en contact avec plusieurs auteurs?
Oui, je peux.
Ouais, ça veut dire c'est une maison d'édition qui dit, nous, notre coloriste, c'est Drac. Sans dire que tu appartiens à cette maison d'édition, évidemment.
Ah oui, non, non. Non, en fait, ils se disent pas notre coloriste, c'est Drac, mais... une de nos coloristes, c'est Drac, parce que les maisons d'édition emploient beaucoup de coloristes. Comme moi, je travaille pour beaucoup de maisons d'édition. Et ce qui me fait bosser sur un projet, ça va être soit donc une maison d'édition qui va me contacter et me mettre en contact avec des dessinateurs scénaristes, soit des dessinateurs qui vont eux me contacter et ensuite me mettre en contact avec la maison d'édition. Donc c'est assez variable. Et comme je participe vraiment à beaucoup beaucoup de festivals de bande dessinée, je rencontre en fait c'est comme ça que je me fais du réseau, et c'est comme ça que je trouve du boulot. Donc c'est toutes mes collaborations, des origines uniques, c'est ça qui est hyper chouette.
Amandine, pareil, au niveau de faire éditer, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été dur au début, ou finalement comme Sandrine, ça a été super?
Comme je disais tout à l'heure, en fait, ça s'est fait petit à petit. Donc au début, j'avais des petits contrats avec des petites maisons d'édition que je multipliais à droite à gauche, et en alternant bande dessinée, illustration pour de la presse jeunesse, illustration pour des commandes, ça peut être pour des municipalités. Donc et puis petit à petit, j'ai commencé à réduire ce que je faisais pour me concentrer vraiment sur la bande dessinée.
C'était un plaisir. J'avais 20 questions sur vraiment le féminisme dans la bande dessinée. Mais je suis ravi en fait de l'entendre quand même, de dire que c'est pas un milieu, même si ça a été un milieu très masculin, que c'est pas un milieu sexiste.
Après, on est un petit échantillon. Chacun a son ressenti. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, j'ai un ressenti très bon enfant du milieu de la BD, qui est un milieu joyeux et où on fait. Voilà, mais peut-être qu'il y aurait eu 4 autres auteurs-autrices autour de cette table et il y aurait eu 4 points de vue très différents.
Après, ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de polémiques sur la représentation des femmes à Angoulême, notamment sur les prix décernés, de même dans le cinéma, hein, par exemple. On disait, c'est toujours des hommes. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites, et je pense que ça change aussi grâce à ça, quand même. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des grosses têtes d'affiches qui sont des femmes, et c'est quand même bien sympa. Et moi, une de mes références en tant que lectrice, c'était par exemple Marjane Satrapi, qui à l'époque a fait quelque chose de quand même un monument, Persepolis, avec en plus le personnage, c'était elle-même, donc une enfant qui est une femme iranienne, quoi. Donc c'était super intéressant, voilà.
Ouais, je pense aussi à Betrefe, qui a fait Agrippine aussi, une femme absolument exceptionnelle dans ce monde-là. Tu veux dire un mot pour conclure, peut-être, ou...
Je veux dire... qu'est-ce que je veux dire? J'ai très 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 chaud.
C'est vrai. C'est très bien. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues parler à ce micro. Drac, Amandine,
merci,
Sandrine, Goalek et Hélène. Tous vos bouquins sont dans. Il y a 3 séries qui sont disponibles quasiment chacune ici. Et de toute façon, je mettrai tous les liens sur notre site internet pour vous retrouver. À très bientôt. Moi,
merci.
De toute façon, je suis
merci
là.
Merci beaucoup.
Un grand plaisir. On est bien en direct et dans, allez, on va dire, quelle est-il, 15h20. Vers 16h, nous allons retrouver les jeunes de l'école primaire de Saint-Chély-d'Apcy. Non, parce qu'on n'a pas d'autorisation, mais leur institutrice. Voilà. Et nous allons aussi retrouver des jeunes ados qui vont tout nous dire sur ce qu'ils font. On est bien sûr Radio Bartas, restez bien à l'écoute.
Les les 5 et 6 juillet à Saint-Enimy,
le festival Bulle de Burle revient.
Organisé par l'association Enimy BD,
plus de 30 auteurs et autrices seront présents pour des séances de dédicaces.
À cette occasion, Radio Bartas prend le direct tout au long du week-end.
Pour des plateaux et des rencontres autour du micro.
La 18e édition du festival Bulle de Burle,
c'est bien sur le 107 FM.
Et sur radiobartas.net.